sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom.
Désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Pauline Laverdure. La gourmandise de ce matin, c'est le dernier vers d'un poème de 1925 signé T.S. Eliot et intitulé « Les hommes creux ». Un vers souvent cité par notre invité, un vers beau et triste qui s'incruste à jamais dans la psyché une fois entendu. Le voici traduit en français par Pierre Liris. « C'est ainsi que finit le monde, pas sur un boom, mais sur un murmure. » Professeur de philosophie et de sciences politiques à Stanford en Californie, professeur émérite de philosophie sociale et politique à l'école polytechnique, membre de l'Académie des technologies et ancien président du comité d'éthique de l'Institut français de radioprotection et de sécurité nucléaire, notre apothicaire de l'âme est un philosophe dont l'œuvre balaie un si vaste univers qu'on peut la considérer comme un cosmos de papier. Morale, éthique, économie, justice, nucléaire, transcendance, politique, jalousie, technologie, violence et panique y sont analysés avec un soin et une inquiétude uniforme. C'est une rencontre qui fera entrer ce polytechnicien en philosophie, celle du penseur de l'écologie politique Ivan Illich, dont il contribuera à faire connaître la pensée en France. D'autres rencontres, réelles ou par les livres, seront pour lui fondamentales. L'étude d'Anna Arendt, d'Hans Jonas et de Gunther Anders seront un choc intellectuel et sa collaboration avec René Girard le terreau d'une réflexion sur la question du mal. Il y aura aussi un choc philosophique provoqué par les attaques du 11 septembre 2001 qui pousseront le philosophe à épuiser la notion de catastrophe, du péril écologique à la guerre nucléaire en passant par les génocides, en résumé toutes les destructions dont l'homme est responsable. La préoccupation du désastre à venir obsède notre apothicaire qui déplore que nous ne croyons pas à son inéluctabilité. On touche ici au refus du réel constitutif de l'être humain, on ne croit pas ce que l'on sait. Bonjour Jean-Pierre Dupuis.
Bonjour Eva Mester et merci de votre invitation.
Première question, aussi inéluctable que le désastre. Quel est votre rapport à la mélancolie, Jean-Pierre Dupuis ?
Eh bien, j'ai écouté beaucoup de vos émissions précédentes, en podcast essentiellement. Et c'est, la variété des réponses est assez extraordinaire. Mais en même temps, je me suis aperçu que beaucoup de gens, comme je vais le dire, comme moi, comme je vais le dire, d'une certaine manière, aiment la mélancolie. Alors moi, je le dirais autrement. Je dirais le meilleur remède que je connaisse à la mélancolie, c'est la mélancolie elle-même, qui serait à la fois donc remède et poison. Bon, alors c'est pas tout à fait exact. Ce que je veux dire, c'est que le meilleur remède à la mélancolie, c'est les œuvres d'art et la beauté des œuvres d'art que la mélancolie a inspirées ou qui expriment cette mélancolie. Bon, c'est un peu différent. Donc, le meilleur remède que je connaisse à la mélancolie, c'est la beauté que je ressens à entendre, à regarder, à écouter des œuvres d'art tristes, tout simplement, et qui parfois me font pleurer. C'est le meilleur remède que je connaisse à la mélancolie. Alors, si vous permettez, je vais peut-être citer, pas citer, mais me référer à trois ou quatre réponses qui vous ont déjà été faites à cette même question pour dire ma différence avec elle.
Je vous en prie,
par exemple, Marin Karmitz, le grand producteur de cinéma, il vous a dit qu'il haïssait la mélancolie. Mais vous avez passé juste après la chanson de Jean-Louis Murat, « Je me souviens », qui est une chanson extrêmement belle et qui exprime l'attachement au passé. Enfin bon, donc j'ai vu là une sorte de contraste. Enfin, malgré lui, au fond, l'émission disait ce que j'essaye de dire là maintenant. Bernard Pivot, « Si l'on est attentif à la beauté de quelque chose, on fait reculer la mélancolie. » Ah oui, je suis tout à fait d'accord à ceci près que cette citation oublie, selon moi, selon mon esthétique, ma personnalité, c'est que cette beauté souvent exprime la mélancolie, est inspiré par la mélancolie.
Jean-Pierre
c'est pas
Dupuis,
la beauté.
C'est extraordinaire, puisque j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que votre œuvre couvrait tant de sujets qu'on pouvait la considérer comme un cosmos de papier. Vous êtes le premier, après 8 années de Remède à la mélancolie, qui y ait fait une radiographie des émissions.
Mais je l'ai fait par intérêt, bien sûr. Je voulais savoir dans quel... série de réponses, la mienne pouvait s'inscrire. Alors vous-même, Eva Bester, vous avez écrit, je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu encore, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Remède à la mélancolie, film, chanson, livre » et vous ajoutez « La consolation par les arts ».
Si j'avais été tout à fait honnête, j'aurais mis cet adjectif qui manque dans le titre « La consolation éphémère par les arts ».
D'accord. Mais alors moi, ça n'est pas la consolation, parce que la consolation, ça veut dire qu'on, c'est un remède précisément, on passe à autre chose. C'est que moi, la consolation, elle vient de la mélancolie elle-même. C'est comme si la mélancolie, j'ai utilisé un mot philosophique, si vous voulez, mais qui ne doit pas faire peur, se te transcendait, hein, se dépassait elle-même. Elle restait mélancolie et en même temps, elle devenait un remède à la mélancolie. Vous voyez, c'est pas donc une consolation, c'est une jouissance. Non pas de la mélancolie, je répète, mais de la beauté qu'inspire la mélancolie.
Bien sûr, mais le mot de transcendance et d'auto-transcendance est très bien choisi. Si vous me le permettez,
je vous en prie.
J'annonce le sommaire aux auditeurs de tous les remèdes qu'on va égrener. Vous allez convoquer dans quelques instants Jean-Pierre Dupuis, Alfred Hitchcock, Antonio Carlos Jobim, Richard Wagner, les mathématiques, Giorgio Bassani, la possibilité du pire et une nuit de sérénité absolue. Juste après, un titre de Vincent Delerme, Vie Varda dans la programmation de France Inter. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie du philosophe Jean-Pierre Dupuis.
love you, Myra.
I love you too. Too late.
No, no, we're together.
Well, it's too late. Something I must do.
No, there's nothing you must do. There's nothing you must do. No one possesses you. You're safe with me.
Look, it's not fair. It's too late. It wasn't supposed to happen this way. It shouldn't have happened.
But it had to happen. We're in love. That's all that counts.
Look, let me go, please. No,
listen,
let me go.
Listen to me.
You believe I love you?
Yes.
And if you lose me, then you'll know I loved you and I wanted to go on loving you.
I won't lose you.
1958, Vertigo d'Alfred Hitchcock, adapté du roman D'entre les morts du tandem d'écrivains Boileau-Narcejac. Vertigo, c'est un film sur lequel vous avez beaucoup écrit, Jean-Pierre Dupuis, notamment dans votre ouvrage La Marque du Sacré. Mais j'aimerais préciser, puisque c'est ce que vous dites dans La Marque du Sacré, que vos obsessions, c'est Vertigo qui vous les ont inoculées.
Non seulement mes obsessions, mais ma vocation de philosophe, qui est arrivée très tard, puisque j'ai eu une formation mathématique et scientifique au départ. Mais enfin, j'étais jeune, j'avais 16 ans quand j'ai vu Vertigo.
Vous êtes tombé amoureux de Madeleine.
Oui.
Kim Novak.
Alors, je ne veux quand même pas, je ne veux pas résumer l'intrigue parce que ce serait faire une mauvaise chose puisque d'abord on n'a pas le temps, mais aussi parce que pour les auditeurs qui n'ont jamais vu ce film, ce serait une trahison.
Enfin, oui, c'est vrai, une trahison.
Sale affaire, hein, bon. Mais il faut quand même donner le contexte. Le héros de ce film, avec lequel, en quelque sorte, je me suis certainement identifié lorsque j'avais 16 ans, bon, c'est un détective qui s'appelle Scotty Ferguson, joué par James Stewart, qui tombe dans une affaire criminelle sans comprendre du tout ce qui se passe. Et cette affaire criminelle implique un être qui n'existe pas, une femme, qui s'appelle Madeleine. Mais Madeleine n'existe pas. Alors, quelqu'un, bien sûr, joue le rôle de cette Madeleine inexistante. C'est quelqu'un qui s'appelle Judy, mais peu importe. Scotty ne la connaît que comme Madeleine. Mais pour remplir son devoir d'être complice du criminel, elle doit faire mine de se suicider. Bon. Alors, la scène que nous avons entendue est la scène absolument cruciale.
Qui est accompagné par la musique de Bernard Herrmann.
On va dire un mot tout à l'heure.
Bien sûr, puisque Jean-Pierre Dupuis, pour vous, je le précise, la musique est au-dessus de tout.
Absolument. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ce film, essayez de le voir sans la musique. Il perd l'essentiel de son charme. Bon, ça c'est très intéressant comme expérience. On va parler de cela, puisque c'est lié à Wagner, effectivement. Alors, mais je fais une toute petite, un préalable aussi. Il y a une citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est mort maintenant, qui s'appelait Vladimir Jankélévitch. Cette citation est tirée de son livre « La mort » de 1981, et elle se trouve écrite sur l'immeuble, c'est une plaque, l'immeuble où il habitait, un quai aux fleurs, à la pointe de l'île de la Cité. Bon, et voici la citation. « Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Désormais ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir été » et son viatique pour l'éternité. Viatique est un terme d'église qui signifie la provision que vous prenez en chemin. Hein. Alors, cette citation a une très forte résonance philosophique. C'est en quelque sorte une réponse à l'argument épicurien pour consoler de la mort. Je serai mort, je ne serai jamais mort. Pourquoi ? Parce que quand je serai mort, je ne serai pas. Et tant que je serai, je ne serai pas mort. Bon. Est-ce que je souffre de ne pas avoir été vivant du temps de Louis XIV? Non.
Ah oui.
Vraiment, je m'en fiche.
Moi, oui.
Ah bon? Alors ça, c'est intéressant. Moi, non. Et donc, pourquoi est-ce que je souffrirais de ne pas être vivant dans, disons, allez, je suis généreux, hein, 30 ans, dans 30 ans? Bon. Il n'y a aucune raison de souffrir. Eh bien, ce que Jankélévitch nous dit, c'est que cet argument ne vaut rien, parce qu'il y a quelque chose qui restera vrai pour toujours, même s'il n'y a plus d'humains sur Terre, c'est que j'aurai existé. Eh bien, revenons à Vertigo. Cette femme qui n'existe pas et qui va disparaître de la vie de Scotty. au moment où elle disparaît de sa vue, il devient vrai qu'elle n'a jamais existé. Puisque c'était un être qui, à l'intérieur du film, n'existait pas. Donc elle échappe à la consolation de Jean Kelevitch. Alors, la question est que Madeleine, alors pas Madeleine, mais la personne qui incarne Madeleine, quand elle demande à Scotty, tu crois que je t'aime? Qui est ce jeu? Scotty ne connaît que Madeleine. Madeleine n'existe pas. Mais elle, c'est Judy. Ce n'est pas Madeleine. Donc, quand il répond oui, il s'adresse à Madeleine, qui est un être qui n'existe pas. C'est tout le tragique de la situation.
Et je tiens à dire pour l'anecdote que dans ce film, lorsque Madeleine disparaît, Scotty tombe dans un état de mélancolie aiguë, c'est dit par le médecin.
Exactement.
Et son ami, il a une amie dans le film, essaye de le consoler avec du Mozart.
Et oui, puis alors quelque chose d'extrêmement ennuyeux. Oui. Mais heureusement, il y a la musique de Bernard Herrmann sur la musique de Mozart. Voilà.
Bien sûr, et on va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'on va aussi entendre tout à l'heure un petit extrait de Wagner qui a été une inspiration pour Bernard Herrmann. Mais d'abord, on se concentre sur la musique dans la première partie de cette émission. Vous allez nous dire, Jean-Pierre Dupuis, ce qu'on entend, c'est un document rare qu'on a eu grâce à vous. Qu'est-ce qu'on entend, Jean-Pierre Dupuis?
Alors, quand vous m'avez présenté, vous avez oublié de dire, je vous le reproche pas, bien sûr, quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, qui est mon rapport au Brésil, puisque depuis toujours, depuis l'âge de 24 ans, je connais, j'aime le Brésil, je m'y suis marié, j'ai deux enfants brésiliens,
mais parce
une
que
fille
c'était
qui
intime.
Habite à São Paulo, etc.
Bon. Je ne parle pas des choses intimes dans les présentations d'invités.
Ah bon, alors d'accord.
Mais moi, vous le dites et c'est...
Non mais là, j'en parle parce que...
Bien sûr,
ça
c'est
explique
lié.
Que je connaisse profondément le Brésil, j'en parle la langue, qui est le portugais du Brésil, et bien sûr, j'aime la musique populaire brésilienne. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est une composition... Alors c'est surtout un enregistrement rare, c'est Antonio Carlos Jobim, l'inventeur de la bossa nova, qui est en train de composer cette chanson, enfin, qui s'appelle Luisa, et il est en train de le faire avec un autre géant de la musique populaire brésilienne qui s'appelle toujours Edu Lobo. Jobim est mort il y a une quinzaine d'années, Edu Lobo vit toujours. Et voilà, donc on le sent tester les accords, etc. Et c'est extrêmement émouvant, effectivement. Alors, si on avait le temps, on pourrait écouter la version commerciale de cette chanson. Alors, qui est Luisa? Luisa, c'est un prénom qu'il aime beaucoup puisqu'il a appelé sa fille Maria Luisa. Et c'est une, comment dirais-je, c'est une femme inaccessible en vérité. Voilà.
Jean-Pierre Dupuis, je n'ai pu m'empêcher de remarquer dans tous vos choix la mort des femmes aimées. Ça ponctue absolument tous vos remèdes. Oui. Vertigo, cette chanson Luisa, exactement. Bassani, qu'on évoquera tout à l'heure, oui. Tristan et Iseut, qu'on va écouter dans quelques secondes.
Oui.
Pourquoi? Vous vous en êtes rendu compte?
Mais oui, mais bien sûr, mais alors, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit au début sur la mélancolie, à savoir que c'est un rapport qui peut être pathologique, qui peut être maladif au passé. Et la femme inexistante ou la femme morte a ceci d'extraordinaire que celle qui est morte est comme inexistante, elle n'existe plus. Et c'est ça qui crée l'attirance pour le passé, précisément, et le désir de voyager dans le passé. Et la mélancolie, c'est un voyage vers le passé. Alors attention, ça ne veut pas dire, comme beaucoup l'ont écrit, que la mélancolie est une émotion réactionnaire. Le passé était mieux. Non, ce n'est pas parce que le passé était mieux qu'on est attiré par le passé. C'est simplement parce que c'est le passé.
Et
pourquoi est-ce que le passé nous attire? Eh bien parce que, justement, nous le tenons pour inaccessible, puisqu'il a eu lieu. Contrairement à l'avenir, puisque nous croyons à tort, bien évidemment, que nous pouvons façonner l'avenir. Nous avons une maîtrise sur l'avenir. Nous n'avons pas de maîtrise sur le passé. Et l'inaccessible, bien sûr, c'est la source du désir. Donc le désir du passé, c'est cela. C'est l'attrait de l'inaccessible.
Il y a de grandes réflexions d'ailleurs sur la temporalité dans vos ouvrages, Jean-Pierre Dupuis, et ça donne le vertige vraiment. Là, on parle de vertigo.
Oui, oui,
ça
oui.
donne le vertige quand oui. on lit ce que vous écrivez.
Oui. Ben, c'est un vertige dont j'éprouve la jouissance, hein, attention.
Évidemment, mais ça se sent.
Dont j'éprouve la jouissance.
Bien entendu.
Bien évidemment.
Alors moi j'ai adopté votre temps circulaire, Jean-Pierre Dupuis. Voici l'air dont Bernard Herrmann s'est inspiré dans l'extrait de Vertigo entendu au début de l'émission. Le prélude de l'acte 3 de l'opéra Tristan et Isolde de Richard Wagner. Il y a eu 77 répétitions entre 1862 et 1864 à l'opéra de Vienne. Le projet a été abandonné. Et puis finalement, en 1865, le roi Louis II de Bavière devient le mécène du compositeur. L'œuvre est créée au Théâtre Royal de la Cour de Munich, mais les critiques juge l'œuvre trop longue, incompréhensible et injouable. Et pourtant, elle est source de plaisir. Aujourd'hui, dans ce studio, Jean-Pierre Dupuis.
Elle est surtout considérée comme la transition à la musique contemporaine. Alors, on a beaucoup hésité, Evad Bester, vous et moi, sur passer ce prélude de l'acte 3, que Wagner appelle pas prélude d'ailleurs, mais peu importe, le rideau est tombé, donc c'est bien un prélude, et le prélude tout court de l'œuvre tout entière. Bon. Alors, l'avantage d'écouter quelques mesures du prélude de l'acte 3, c'est qu'effectivement, la connexion avec ce qu'on a entendu de Bernard Herrmann dans la scène cruciale de Vertigo, dont on a discuté, est forte. Mais évidemment, on rate là le prélude tout court, dont la quatrième mesure est le fameux, enfin fameux pour qui s'intéresse à la musique, accord de Tristan. Bon, qui est un accord qui a l'air de rien, hein, c'est Fa, Do bémol, Ré bémol, La bémol, un accord en mi bémol mineur, qui n'a l'air de rien, et sur lequel les musicologues, jusqu'à aujourd'hui, se battent pour essayer d'expliquer pourquoi il nous fait cet effet.
Il est dissonant, cet accord. On a l'impression que c'est l'éclatement d'une unité.
Exactement. Et surtout qu'il est suivi d'un autre accord, qui, loin d'être la résolution du premier accord, vous tient encore plus en suspens. Et vous serez constamment tenu en suspens, y compris dans ce prélude de l'acte 3, jusqu'à la dernière mesure. Hein, la note et l'accord de si, bon, qui conclut effectivement en accord parfait l'ensemble de la musique. Il a fallu attendre 4h30. Mais pendant 4h30, vous avez été tenu en suspens par cette musique extraordinaire. Bon. Alors, inutile de dire que c'est une œuvre extrêmement mélancolique. Le prélude de l'acte 3, Tristan a été blessé à mort par celui qui était son ami et qui est apparu comme un traître par jalousie, puisque Melo, qui est comme Tristan, aime Isolde, qui par ailleurs est la femme du roi Marc. Donc, bon. Et Tristan est blessé à mort, il va mourir, mais il espère l'arrivée d'Isolde, qui arrive effectivement, mais au moment où elle arrive, Tristan meurt, et c'est les 20 dernières minutes, qui est la mort d'Isolde, que Wagner a appelé Liebestod. Littéralement, amour, mort, ce qui ne veut pas dire la mort de l'amour, ce qui ne veut pas dire que l'amour dans la mort, ce qui veut dire que l'accomplissement de l'amour ne peut se produire que dans la mort.
Et ça revient souvent en boucle dans vos remèdes, Jean-Pierre Dupuis. On continue de se déplacer d'ailleurs par boucle temporelle en revenant vers Tom Jobim. Vous avez choisi une bossa nova dont le titre semble avoir été créé pour cette émission.
Tout à fait.
Chega de Saudade, qui signifie...
Il y en a marre de la saudade.
Mais oui, on l'écoute.
C'est de l'argot, hein.
On l'écoute.
Il y en a marre de la saudade, ce qui est une forme de la mélancolie, bien sûr.
Morceau de 58.
Vai minha tristeza. sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Peixinhos a matar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos.
Sur France Inter, toujours en compagnie du philosophe Jean-Pierre Dupuis. Jean-Pierre Dupuis, vous vous intéressez autant à la philosophie morale et politique qu'à celle des sciences et des techniques ou à la métaphysique. Les mathématiques vous enchantent. C'est normal de les retrouver dans votre panthéon. Et dans votre ouvrage Pour un catastrophisme éclairé, on trouve cette phrase qui m'a marquée. Mes plus grandes joies sont venues de la pratique de la science. L'imagination mathématique m'a tenu lieu de poésie. Pouvez-vous préciser cette idée ?
Oui. Il faut dire que j'ai reçu une formation en mathématiques. À l'école polytechnique, on ne fait pas de technique. Enfin, de mon temps, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. De mon temps, c'est-à-dire il y a longtemps. Et c'est tout l'enseignement, y compris celui de physique et de chimie, est enrobé de mathématiques, etc. Donc, même lorsque je ne fais pas de mathématiques, au sens strict, puisque j'en fais plus, évidemment, faire des mathématiques, ça n'a de sens que si on en fait à temps plein, y compris la nuit. Attention. Hein. Mais comment dirais-je, j'ai l'esprit mathématique. Et quand je fais de la philosophie...
Vous êtes logicien.
Alors, oui, logicien, disons. Mais si vous voulez, la mathématique, contrairement à ce que pensait Heidegger, par exemple, ce n'est pas du tout la science du calcul, c'est la science des formes. Et en particulier, avoir l'esprit mathématique, c'est reconnaître les mêmes formes dans des objets complètement différents. Bon, voilà. Alors, ce qui m'aide en philosophie, bien évidemment, mais... Si vous voulez, je parle de la France maintenant, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Ce que je considère comme un plus, c'est-à-dire d'avoir l'esprit mathématique, pas seulement lui, bien sûr, est considéré dans la philosophie française comme un moins. Parce qu'il y a cette sorte, depuis Sartre au moins, cette sorte de mépris, en tout cas d'ignorance de la science, et donc des mathématiques, puisque, bon, voilà. Alors, la seule exception que je connaisse récemment, c'est Alain Badiou qui a écrit un livre, Éloge des mathématiques.
Oui, que j'ai lu, qu'on peut emprunter à la bibliothèque.
Exactement. Bon, alors, pourquoi est-ce que les mathématiques sont pour moi un remède à la mélancolie dans le sens pénible du mot mélancolie, hein, la tristesse vraiment qui vous taraude, etc. Mais tout simplement parce qu'elle vous envoie dans une transcendance. Mais c'est aussi, parce que ça c'est l'accès aux idées, n'est-ce pas ? Presque au sens platonicien du terme, bon. Mais c'est aussi la procédure d'arriver à des résultats mathématiques, c'est-à-dire le suspense. Comme, si vous voulez, quand je lis un roman policier, j'étais très grand amateur de romans policiers, quand j'arrivais vers la fin, surtout le genre Agatha Christie, disons, hein, je ralentissais ma lecture pour pas finir trop tôt. Mais c'est pareil quand j'ai un problème mathématique ou logique, dans mon cas, sur lequel je suis en train de réfléchir, mais à la limite, je ralentis le mouvement pour garder le plaisir plus longtemps.
Il y a deux choses qui me frappent lorsqu'on pense aux mathématiques comme remède à la mélancolie, Jean-Pierre Dupuis. La première, c'est que les mathématiques sont l'un des rares domaines où l'on trouve des résultats parfait. C'est-à-dire la perfection existe dans les mathématiques et l'abstraction dans laquelle les mathématiques plongent absorbe tant qu'on ne peut pas être dans le registre des émotions et que donc on est mis à l'abri en quelque sorte de la mélancolie. La seconde chose, c'est, j'imagine que vous connaissez la gravure de Dürer, Melancholia 1 de 1514. Dessus, il y a plusieurs instruments mathématiques. Il y a un carré magique, un compas. Oui. Et en fait, les mathématiques, ça a toujours été une façon pour l'homme d'essayer de maîtriser le monde, puisque la mélancolie était engendrée par l'impuissance.
Tout à fait.
Vous le ressentez, ça ?
Oui, je le ressens, mais en même temps, j'en vois les limites, bien évidemment. C'est pourquoi je ne me limite pas aux mathématiques comme remède à... Le principal remède à la mélancolie, je répète, c'est d'être plongé dans la beauté, et en particulier la musique. Des œuvres d'art inspirées par la mélancolie. Mais la littérature aussi, bien sûr.
Eh bien, justement, la littérature, on en parle maintenant.
Ci sei stato poi, ieri pomeriggio, a casa Pizzicottini?
Certo.
Sì, e com'erano? Gentili?
Gentilissimi.
Lo credo bene. Sono gentili perché sono contenti di quello che sta succedendo. È talmente chiaro.
Ma che cosa dici?
Ah sì. Allora, in fondo, la legge razziale gli fa piacere. Si seccano persino che ritardi da farle. Inviti, gran sorrisi, salamelecchi. È il giardino finalmente aperto a tutti. Per farne una specie di ghetto sottoposto al loro alto patronato.
Nei ghetti, che io sappia, ci stanno soltanto gli ebrei. Casa Finzi Contini in questi giorni, a parte Bruno Lattes e me, è piena di appartenenti alla razza ariana.
Je vais essayer de résumer très brièvement l'extrait qu'on vient d'entendre. Jean-Pierre Dupuis, le père, demande au fils s'il s'est rendu chez les Finzi Contini la veille. Le fils répond que oui, il souligne leur gentillesse et le père affirme que leur gentillesse n'est due qu'aux événements qui les rendent heureux. Ils sont pour les lois raciales, dit-il. Ils voudraient les voir appliquées. Invitation, sourire et le jardin est ouvert à tous. Ils rêvent d'un ghetto noble. Et le fils répond, dans les ghettos, il n'y a que des juifs. Chez eux, à part Lattès et moi, il n'y a que des ariens. Le jardin des Finzi Contini, réalisé par Vittorio De Sica, l'adaptation pour le grand écran de votre sérum littéraire, Jean-Pierre Dupuis, le roman éponyme de l'italien Giorgio Bassani, publié en 1962. Un hommage à la ville de Ferrare, ville mélancolique s'il en est, dites-vous.
Absolument. Là aussi, il faut résumer l'intrigue, mais sans aller trop en profondeur. Bon.
C'est encore une femme qui échappe.
Oui, alors tout à fait, parce que c'est l'histoire d'un amour non réciproque, dans un temps qui est tragique, enfin, et où les Juifs de Ferrare, qui est une ville en grande partie juive, sont peu à peu mis de côté, interdits d'accès au tennis municipal, donc ils se réfugient chez le tennis, au tennis des Finzi Contini, etc. Tous ces jeunes. Et le narrateur, c'est Giorgio, qui est en fait l'auteur du livre, mais c'est donc un roman à la première personne, et il tombe amoureux de la fille des Finzi Contini, qui s'appelle Mikol, d'un prénom hébreu, qui signifie, je crois, en hébreu, la reine, M-I-K-O-L en français, bon. Mais Mikol, ils se connaissent depuis toujours, pratiquement. Ils ont été à l'école ensemble, etc. Et c'est au fond une sorte de malentendu entre eux. Car lorsqu'il lui avoue finalement son amour, d'ailleurs de manière extrêmement maladroite, en se jetant sur elle, en essayant de la forcer à l'embrasser, etc. Mais c'est un malentendu. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va détruire notre amitié. Et la chose absolument extraordinaire, c'est que là, le narrateur veut comprendre pourquoi. il veut en savoir plus. Et elle lui répond ceci, c'est parce que nous sommes pareils. Et que pour être un véritable couple, il faut être différent, et y compris jusqu'à se battre ou être en désaccord, etc. Or, nous sommes pareils. Et nous sommes pareils sur quelle dimension ? Ben, sur le rapport au passé. Et voici ce qu'elle dit. Nous avons le désir commun que le présent devient tout de suite le passé, pour pouvoir l'aimer et le contempler à notre aise. C'est là notre vice commun, d'avancer avec toujours la tête tournée en arrière.
Encore, Jean-Pierre Dupuy, des choses qui rejoignent vos réflexions sur la temporalité.
Mais, tout à fait.
J'aimerais aborder le prologue du Jardin des Finzi Contini, puisque dans le prologue, il y a une illustration presque littérale de la mélancolie, plutôt du mot acédi, qui est le mot du Moyen-Âge, qui d'abord était uniquement religieux, ensuite la définition s'est étendue, c'est devenu un synonyme de mélancolie. Oui. L'acédi, étymologiquement, c'est un manque de soins, notamment un manque de soins aux morts, les morts auxquels on ne donne pas de sépulture. Et là, je vous laisse prendre le relais, Jean-Pierre Dupuy, puisque qu'est-ce qu'on apprend au début ? Le narrateur va voir.
Alors, le début, enfin l'introduction, donc, c'est un récit enchassant qui se passe en 1953 et qui provoque le retour vers le passé du narrateur. Et le passé, c'est les années 30, bien sûr, ça se termine à l'été 1939. Hein. Et nous savons donc, à ce moment-là, dès le prologue, que tous vont mourir, sauf le frère de Micole, qui lui meurt de maladie, maladie des poumons. Bon,
et j'ai visité
à Ferrare le tombeau qui est une sorte de mausolée. Alors pas des Finzi Contini, mais dans Bassani. J'ai fait ce pèlerinage et effectivement dans le roman, il y a une seule personne dans ce grand mausolée, c'est le frère qui est mort de maladie. Tous les autres ont été envoyés à Auschwitz.
Les autres n'ont pas eu de sépulture.
Exactement. Mais alors le récit en chassant maintenant. Alors ça se passe en 1953. Le narrateur se trouve dans le voisinage de Rome. Il y a des tombeaux étrusques, très très beaux d'ailleurs, tout près de Rome. Et il s'y trouve avec un groupe. Et à un moment, il se trouve dans une voiture avec un couple et leur petite fille qui s'appelle Giannina. Et il y a un dialogue entre Giannina et son père.
On vous écoute.
Que raconte le... Alors voici, je cite. « Papa, demanda encore Giannina, pourquoi les tombes anciennes vous rendent-elles moins tristes que les tombes plus récentes ?»« C'est facile à comprendre, répondit le père. Ceux qui sont morts depuis peu sont plus proches de nous, et justement à cause de cela, nous les aimons plus. Tandis que vois-tu les Étrusques, il y a si longtemps qu'ils sont morts, que c'est comme s'ils n'avaient jamais vécu, comme s'ils avaient toujours été morts. » Nouveau silence plus long, au bout duquel ce fut au tour de Giannina de donner sa leçon. « Mais non, déclara-t-elle avec douceur, en disant cela, tu me fais penser au contraire, que les Étrusques ont vécu eux aussi. » Et je les aime aussi, comme tous les autres. La visite de la nécropole se déroula ensuite, je me le rappelle, sous le signe de l'extraordinaire tendresse de cette phrase. C'est Giannina qui nous avait mis en état de réceptivité. C'était elle la plus petite qui, en un certain sens, nous tenait par la main. Et c'est ça qui va mener au retour vers le passé, les années 30, et la tragédie qui s'est produite à ce moment-là.
Encore des boucles temporelles. Et
oui.
Du vertigo. Jean-Pierre Dupuy, nous allons accéder quelques minutes à votre cœur, juste après un morceau de la playlist France Inter, Hurt de Joy Crooks.
Thunder clouds when you walked in, but I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling.
Never ask me
how I like my eggs in the morning.
Never ask me.
Taking comfort in my shadow, but you seem to stay afloat 'cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow, 'cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts. Why, oh why? I don't need to take
take a hit from your talking. When the hurricane comes, I'm on back roads. When the hurricane comes, you do not know. Oh, I feel the clouds of change when I'm riding in my spaceship. Calling out your rain, cause it's no one's time to soak it. You left me hopeless, swimming in your ocean. Got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why? I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why? There I was a creeping through my window. Now I've got you back in my arm. Now I'm moving from the shadow.
Remède à la mélancolie sur France Inter, dans l'officine de l'âme du philosophe Jean-Pierre Dupuis. Vous avez, Jean-Pierre Dupuis, choisi un moment de votre existence assez particulier. Je vous cite la nuit qui a précédé ma récente opération à cœur ouvert pour un double pontage coronarien, nuit de sérénité absolue. Comment expliquez-vous cette sérénité à un endroit où presque tout le monde aurait été terrifié?
Je n'ai pas d'explication.
Un moment de grâce.
Mais c'est un moment de grâce, mais vraiment un moment de mélancolie. Cette grâce était mélancolique, puisque je revoyais toute ma vie, vraiment. Alors, en général, on dit qu'on revoit sa vie lorsque, dans un accident, en l'espace de 15 secondes, on revoit toute sa vie. Moi, il m'a fallu une nuit entière, parce que je n'ai pas dormi une seule minute, mais absolument pas dans l'anxiété, mais dans la pure sérénité. Et j'ai revu les grands moments de ma vie avec une sorte de tendresse. J'ai été réconcilié avec moi-même. À vrai dire, ce n'est pas les mélancolies, c'était ce dont on a parlé tout à l'heure, de la saudade, au sens brésilien, car on ne l'a pas dit ça.
La saudade,
c'est d'une part la tristesse de l'absence de l'autre, mais c'est aussi la joie du fait qu'on pense à lui ou à elle. Bon, et là, je me suis réconcilié avec ma vie, justement, donc j'avais une sorte de saudade, au sens brésilien du terme, pour ma vie. Voilà.
La fixité ou la mouvance du passé et de l'avenir fait partie de vos réflexions, Jean-Pierre Dupuis. On trouve beaucoup de passages dans vos livres. Et justement, il en est question aussi dans la citation que vous nous avez soumise. Elle est extraite de Autobiographie de mon père de Pierre Pachet, publiée en 1987. Et elle résume certaines de vos idées principales, Jean-Pierre Dupuis. C'est « Si le pire est possible, alors la mélancolie n'est pas de mise ». J'aimerais savoir comment vous entendez cette citation, sachant que pour vous, le pire n'est pas possible, le pire est inéluctable.
Oui.
Et c'est d'ailleurs la seule façon qu'il ne le soit pas, c'est de penser qu'il l'est.
Oui. Bon, alors juste un mot sur Pierre Pachet. C'est un aide que j'ai beaucoup aimé sans le connaître assez bien. On a eu un prix prestigieux ensemble d'ailleurs, le prix Roger Caillois, c'était en décembre 2011. Lui, il a eu le prix Roger Caillois de la littérature française et moi de l'essai. Lui, c'était pour un livre magnifique qui s'appelle Sans amour, qui est sur le thème de la vieillesse, des femmes seules qui ont renoncé à l'amour, vous voyez. Bon, voilà. Alors Pierre Pachet, comme son nom ne l'indique pas, est juif, était juif, puisqu'il est mort il y a 2-3 ans. Et son père venait d'Odessa et a décidé de s'établir en France après un détour par les États-Unis pour devenir chirurgien dentiste. Bon, donc c'est l'expérience malgré tout des camps qui est derrière tout ça. Alors il y a une autre citation de Pierre Pachet dans le même livre qui éclaire la première, c'est, je cite, « Les survivants sont rarement mélancoliques ». Alors, comment l'expliquer à partir de tout ce que nous avons discuté? Je crois que c'est très simple, c'est que la mélancolie, c'est l'attirance pour le passé, y compris l'attirance maladive pour le passé, y compris jusqu'à le reconstruire, vertigo. On n'en a pas parlé de ça, mais Scotty reconstruit Madeleine qui n'existait.
Et en faire une fiction,
mais une fiction que nous appelons quand même passé. Bon, tandis que si le passé est vraiment horrible, parce que, attendez, la différence entre mon travail, moi je parle des catastrophes à venir. Ces gens parlent des catastrophes qui sont déjà advenues et la grande catastrophe qui est évidemment la Shoah. Bon. Donc, lorsque le passé est vraiment horrible, mais vraiment, il perd son attirance. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être mélancolique, on ne peut pas être attiré par quelque chose d'aussi horrible. Bon. Et qui ne peut même pas être dit avec des mots. Donc voilà, c'est tout ça rentre dans mon schéma général. c'est l'exception à mon schéma général, qu'il y a quelque chose dans le passé, et ça n'est pas mauvais, qui nous attire parce que c'est le passé, sauf si le passé est horrible. Voilà. Bon, c'est comme ça que j'interprète la citation de Pierre Bachet.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé, Jean-Pierre Dupuis, dans votre dernier ouvrage, La guerre qui ne peut pas avoir lieu, sur la dissuasion nucléaire. Vous citez en annexe Girard, dans Achever Clausewitz, « Il faut réveiller les consciences endormies, vouloir rassurer, c'est toujours contribuer au pire. »
Tout à fait.
Je rebondis sur ça, puisque on parle de la possibilité du pire. Et je trouve qu'il y a un parallèle à dresser entre ces deux citations.
Oui, bien sûr. Mais là, Girard pense aux optimistes béats, je dirais, hein, qui nient que nous sommes au bord du gouffre. Alors, ça dit, moi je n'irai plus, en tout cas aujourd'hui, que le gouffre, que je veux dire, tomber dans le gouffre est inévitable. Hein. Je veux dire, si, alors, il est inévitable, c'est notre destin, mais on peut choisir un autre destin. J'ajoute que on peut choisir son destin. D'ailleurs, choisir son destin, je vous signale, c'est le titre de un certain nombre d'ouvrages politiques dont celui de François Hollande, je crois, ou de Nicolas Sarkozy, je ne sais plus. Choisir son destin, ça n'a pas de sens en métaphysique ordinaire. Enfin, le destin, c'est ce qui vous tombe dessus. Comment est-ce qu'on pourrait le choisir? Ben si, justement, dans mes livres, j'essaye de montrer que nous n'avons pas à choisir entre des options, des marques de lessive, etc. Nous avons à choisir entre des lignes d'univers, en quelque sorte. Donc, c'est bien notre destin, la catastrophe, mais on peut choisir d'éviter ce destin.
Voilà. Eh bien, on termine sur une lueur avec vous, Jean-Pierre Dupuis. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Mais c'est moi qui vous remercie, Eva.
Votre dernier ouvrage, La guerre qui ne peut pas avoir lieu, est paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Et l'on peut toujours se procurer les précédents, j'en cite quelques-uns dans le désordre. Pour un catastrophisme éclairé quand l'impossible est certain, avons-nous oublié le mal, penser la politique après le 11 septembre, la panique, petite métaphysique des tsunamis, la jalousie, une géométrie du désir ou encore la marque du sacré, essai sur une dénégation. Chers auditeurs, tout ce que vous avez entendu, toutes les références se trouvent sur le site de l'émission. J'espère que vous avez la même allégresse qu'un rhododendron joueur d'harmonica. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.